Alors que tu nous as accompagnés pendant ces deux jours et tu nous as fait présentation, tu viens de faire avec nous encore ce matin, alors que j'aurais des questions sur peut-être qu'il nous manque un peu de temps avant ton retour et qu'est-ce que tu as fait, ou qu'est-ce que tu es en train de faire dans le sanctuaire céleste, pour que nous soyons prêts pour ton retour et que surtout nous étions d'autres à être prêts également. Selon ton fils Jésus que nous avons prié. Dans le procès baptiste hier, il y a eu des questions sur le sanctuaire. On va en parler. Et c'est dans le procès baptiste qu'on a fait hier, il y avait des questions sur le sanctuaire. Et là, on va en parler un peu plus en voyant le personnage de Jésus dans le sanctuaire céleste et dans le sanctuaire dans son ensemble. Alors, je vais commencer en faisant cette remarque. Si vous tapez juste sanctuaire céleste ou Jésus-Christ sur Internet, Google, tapez ça, vous allez voir que la majorité des références, moins 90% des références, c'est adventiste. Ça veut dire quoi? Si vous avez dit Jésus mort sur la croix, la majorité des références, est-ce que ce sera adventiste? Non, parce que la majorité des chrétiens adhèrent à ce message, n'est-ce pas? Et donc, si vous tapez Jésus, la résurrection, est-ce que la majorité sera adventiste? Pas forcément. Mais lorsque vous tapez sanctuaire, c'est difficile qu'il y ait des références aux adventistes qui sortent. Et quand ce sont des choses qui ne sont pas adventistes, en général, ça n'a rien à voir avec comment nous on voit le sanctuaire. Par exemple, en sanctuaire de Jésus-Christ, là je trouve le site, j'essaie de voir de quoi il parle et tout, mais je ne trouve rien sur vraiment le sanctuaire hébreu, je ne vois pas que c'est juste le nom d'une église. Tout le reste, c'est d'écrire les activités qui vont et puis tout ça, mais il n'y a rien par rapport à ce que signifie le sanctuaire qu'on en trouve dans la Bible. Donc ce message est vraiment unique à notre église. Unique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune autre église qui étudie le sanctuaire, mais notre interprétation du message, de notre compréhension du sanctuaire hébreu est vraiment exclusive à l'église adventiste des Seigneurs. Parfois, les gens demandent la question, qu'est-ce que la différence entre l'église adventiste et puis les autres églises, par le savoir de ces choses, mais la doctrine fondamentale, je dirais, c'est le sanctuaire, parce que c'est à partir de là que sort tous les autres enseignements du message. En plus, on dit, c'est un peu essentiel. Voici un exemple qui dit, je vais utiliser par le 204, par exemple. Par le fondement de notre foi, je dis, le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Dans les différentes phases de l'Église ou du peuple de Dieu, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait, le peuple était invité à regarder au-delà de leur réalité. Par exemple, lorsque Jésus est revenu il y a 2000 ans, il est mort, il est ressuscité, pour que ce petit groupe qui était avec Jésus et ceux qui se sont rejoints puissent comprendre maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la nouvelle foi qui va naître. Il fallait qu'ils enlèvent le regard de Dieu, ce qui se passe autour d'eux, et de regarder Jésus dans le sanctuaire céleste. Donc, toute la naissance de l'Église était basée sur leur compréhension de qu'est-ce que Jésus fait en haut, n'est-ce pas? Parce que Jésus est venu là, quand il voit qu'il est ressuscité, il est ressuscité pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en haut, c'est ça qui a amené la naissance de l'Église. Et puis nous, on est parti ce jour aujourd'hui, même chose, après la grande déception que vous avez vue dans votre présentation. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on se prépare pour le retour de Jésus et que l'on comprend les dents dans cette vie? Parce que nous regardons en haut qu'est-ce que Jésus fait et non pas autour de nous. Donc, le fondement de notre foi, c'est de comprendre ce qui se passe là-haut. Parce que ça commence là-haut et ça dit ce qui se passe sur la terre. Dans le même sens, je parlerai plus. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Donc, chacun d'entre nous devrait comprendre le sanctuaire. Et vous allez voir dans la présentation de ce matin, on va vraiment montrer qu'est-ce que le sanctuaire enseigne essentiellement. parce que parfois on enseigne, j'ai entendu différentes présentations, et parfois on va trop dans les détails. Vous savez, il y a plein de détails là, sur comment le sanctuaire est fait, et puis comment il est sorti, dans quel état il était, les types de tissus, etc. Et parfois on va rentrer dans des présentations où on va expliquer article par article, détail par détail, qu'est-ce que ça signifie. Et puis, je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça, mais parfois, ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Quand on lit ça ici, ce n'est pas ça qu'on parle. Il faut savoir pourquoi est-ce que les articles étaient en argent, que l'on présente l'argent dans la vie. Ce n'est pas ça que Dieu veut parler. Ce que Dieu veut que l'on sache, c'est comment est-ce qu'il va nous sauver. Parce que le sanctuaire est là pour ça. Donc, on doit avoir l'image globale, on doit comprendre l'essence du message. Et puis, les détails, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas essentiel pour sa vie. Mais là, encore des choses essentielles que chacun d'entre nous doit comprendre. Donc, c'est qu'est-ce que le sanctuaire dit essentiellement. Ok. Raison d'être du sanctuaire hébreu. Donc, voici un texte qui, selon moi, explique bien la raison d'être. Dans Hébreux chapitre 9 et le verset 9, vous allez voir que. Le livre d'Hébreux est important pour les sanctuaires, surtout les sanctuaires célestes. Il y a une description qui est faite des articles qui se trouvent dans le sanctuaire, des ministères qui étaient faits dans le sanctuaire, et puis vers la fin de toutes ces descriptions, il y a comme une conclusion qui arrive, c'est au verset 9, et qui dit c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience de celui qui est en sanctuaire. Donc, on parle du sanctuaire plus haut et on dit c'est une figure. Alors, on veut dire figure, c'est le mot parabolé ou parabole. Donc, le sanctuaire, c'est une parabole. C'est une image. Maintenant, c'est une image de quoi, essentiellement? Le sanctuaire, c'est une parabole, c'est une image du plan du salut pour que l'on puisse comprendre comment est-ce que Dieu nous sauve. L'objectif du parabole. Très simplement, le parabole, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre quelque chose de nouveau en faisant une comparaison avec quelque chose qui est déjà connu. Donc, toutes les paraboles de Jésus donnait, il prenait des exemples de la vie de tous les jours des gens, donc quelque chose que les gens connaissent, et il essayait maintenant de leur faire comprendre ceux qui ne connaissent pas et faire un lien entre les deux. Donc, on parle exemple ici ou ici que Alain était en train de mentionner, et puis on parle de ici ou ici 2016, et il dit que cette année ça va être encore mieux, ça va être extraordinaire pour nous aider à comprendre ce qu'il a fait encore, c'est qu'il nous parle, c'est pas de la dernière, c'est qu'il quelque chose de connu. Tu vois, des références, exemple, le nom d'esprit, ce sera beaucoup plus. Donc, on parle de quelque chose qu'on connaît pour expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Qui va venir. C'est une parabole, c'est une image. Maintenant, c'est ça que le sanctuaire essentiellement. Exemple de parabole, comme disons le fils prodigue, Luc chapitre 15, et verset 11 à 32, c'est quoi le but de la parabole du fils prodigue? En quelques mots, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner là-dedans?
La mise de l'école. C'est celui qui fait du mal n'a pas besoin de.
Ok, tout ce que vous dites, c'est bien réussi de voir si la parole est juste pour dire et j'essaie de sortir une leçon, c'est pas la leçon que j'essaie de donner à travers cette parabole. Parce que je sais qu'on peut l'utiliser, ça peut être l'objet d'un message, mais une leçon vraiment simple, c'est quoi?
Le Père Noël, on peut toujours revenir à lui.
Le Père Noël, on peut toujours revenir à lui. C'est ça? C'est ça l'objectif de cette parabole. Maintenant, on comprend aussi en anglais que Jésus parlait aux pharisiens, parce qu'à la fin, le fils aîné qui n'est pas parti, qui n'a pas gaspillé les biens, se fâche parce que le plus jeune est revenu et que le père l'a accepté. Donc, en d'autres mots, Jésus ne termine pas la parabole, qui dit c'est à vous de terminer la parabole. Est-ce que vous allez vraiment refuser? Donc, en d'autres mots, c'est est-ce que si on te dit qu'un tel va être au ciel, ce n'est pas intéressé à être au ciel. Parce que si tu dis qu'un tel a protégé, il n'est pas bien. Donc ça c'est l'essence de la parole du fils prodigue. Maintenant parfois les gens se perdent dans les détails et vont dire lorsque le fils prodigue est venu, on lui a mis une bague, c'est déjà qu'on a le droit de porter des bijoux. Mais est-ce que c'est pour ça que Jésus a parlé de cette parole? Il a donné une la bague, le bijou, c'est faux. Mais vu que ce n'est pas ça l'objectif de la parole, faut pas se perdre dans les détails. On parle juste qu'il a été tellement accepté qu'il a retrouvé son autorité comme s'il n'était jamais parti. C'est ça. Mais le but, c'est pas de nous présenter la doctrine qui va être conforme et plus souvent. Donc, il faut avoir vraiment penser au message central. Oui, les détails, c'est bien, mais il ne faut pas se perdre dans les détails, parce que ce qui est important, c'est le message central. L'autre exemple, l'homme riche et le pauvre, d'abord, dans Luc 16, verset 19 à 31, c'est quoi la leçon simple de cette parabole? Ah oui, je vous rappelle la parabole, peut-être. Ok. La question, c'est la même que pour Jésus. Pour dire, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner en donnant la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare? Donc, la parole de l'homme riche et le pauvre Lazare, c'est un homme riche qui est un pauvre à sa porte, et lui, il est très riche, l'autre est très pauvre, les deux malades se retrouvent dans le séjour des morts, et celui qui est pauvre, le pauvre Lazare, est dans le sein d'Abraham, et celui qui est riche est dans les flammes, et il demande avant d'avoir dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de me donner un peu d'eau là parce que là je souffre. Et on lui répond il y a un gouffre entre nous deux, donc on ne peut pas t'aider, il n'y a pas de lien entre ceux qui sont dans ta Abraham et ceux qui sont dans les flammes comme toi. Et là il dit si c'est ça, est-ce que vous pouvez au moins envoyer Lazare dire à mes cinq frères qui viennent se comporter dans leur vie pour ne pas qu'ils aient le même sort que moi. Et là, on lui répond qu'ils ont Moïse et les prophètes, et ils ne sont pas dit, oui, mais si quelqu'un dans les morts va leur parler, ils vont croire. Et là, on dit, si ils ont Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne croiraient pas. Donc, c'est quoi la leçon de la parabole que Jésus vous a donnée? Je vous pose la question. L'enseignement simple, une leçon simple, c'est quoi?
Et on n'a pas deux chances.
On n'a pas?
On n'a pas deux chances.
On n'a pas deux chances. C'est ça que j'aime dire. Dans le fond, c'est pas plus tard qu'il faut se repentir. La chance d'accepter Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant que ça accepte. C'est ça la leçon de cette parabole essentielle. C'est maintenant qu'il faut choisir Dieu. Maintenant, tout simplement, on peut voir que Jésus encore, son foi s'adressait à son peuple et que les gens ont vraiment manqué le message parce que Jésus a vraiment ressuscité quelqu'un qui s'appelle Lazare et ils n'ont pas tous accepté. Donc, maintenant, les gens vont se faire dans les détails encore. Est-ce que là, Jésus voulait dire que lorsque les gens meurent, ils vont quelque part, là, ils se parlent. Est-ce que c'est une parole de discuter l'état des morts? Non, le but, c'est de dire, t'as pas deux chances. Encore une fois, les détails, c'est bien, ils sont en train d'avoir, il n'y a pas de communication entre nous, mais c'est pas ça le but. L'objectif, c'est, vous n'avez pas deux chances. C'est ça que Jésus voulait enseigner. Donc, les détails, c'est bien, mais nous ne perdons pas dans les détails. Donc ce matin, on va voir le message essentiel du sanctuaire, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, et non pas aller vraiment dans les détails de chaque article, etc. Donc le plan du salut se trouve dans le sanctuaire, pas que c'est une image, c'est une parabole pour nous aider à comprendre comment est-ce que Dieu va nous sauver. C'est ça l'objectif. Depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu a mis un plan en action pour nous sauver, et vu que c'est essentiellement, ce qui se passe dans la majeure partie du plan du salut, ça ne se passe pas vraiment ici, mais au ciel. Pour vous aider à comprendre le processus, Dieu va nous donner le sanctuaire. Trois phases qui correspondent aux trois parties du sanctuaire, si on veut. Donc, le parti, le lieu saint et le lieu très saint, on peut comprendre aussi le plan du salut en trois parties principalement. Première partie, donc comme nous sommes dans le parti. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 3 et 5, que même le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par le sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs porte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : tu n'as plus ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand on rentre dans le sanctuaire, après que j'ai passé la porte, la première chose qu'on voit, c'est l'autel des sacrifices. Donc, qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire sacré, hein? Chaque jour, les pécheurs venaient avec un animal, confessaient leur péché sur l'animal, tuaient l'animal lui-même, et ensuite le prêtre prenait le sang pour aller faire l'aspiration dans le sanctuaire, ou alors manger une portion de l'offrande, une portion de la viande, donc de l'animal, pour devenir le porteur du péché et aller le mettre dans le sanctuaire. Maintenant, ça, c'est une figure pour nous montrer qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire pour nous sauver. Vraiment, on arrive dans le sanctuaire, il y a une porte. Personne ne rentre dans le sanctuaire seul. Tu peux arriver comme ça dans le sanctuaire et dire on a écouté des sacrifices. Où est ton offrande? Où est ton sacrifice? Qui est-ce qui va venir à ta place pour te déchirer? Donc, en d'autres mots, on ne peut pas venir à Dieu comme ça. C'est-à-dire, où est Jésus-Christ? Où est celui qui te donne accès au Père? Où est celui qui a fait le sacrifice pour que tu sois accepté de Dieu? C'est la première leçon. D'ailleurs, on a fait le sacrifice, il est mort pour nos péchés. Et rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, le système sacrificiel est rentré tout de suite. Parce qu'ils ont dû, Dieu leur a fait des robes sur le corps. Donc, les animaux ont été sacrifiés, Adam et Ève ont tué ces animaux. Donc, si moi je suis un Italien qui vient avec mon animal et je sacrifie sur l'autel, ce que ça me dit, c'est que c'est moi qui ai péché, mais c'est moi qui m'en sors comme si je n'avais rien fait. Et cet animal est innocent et c'est lui qui paye le prix. Exactement une figure pour montrer qu'est-ce que Jésus va faire nous péchant, donc on arrive dans le sanctuaire, mais parce que Jésus est mort à la place, nous partons vivre et l'innocent meurt.
Une question de base. De pourquoi est-ce que le plusieurs de l'histoire ne peut pas faire la parole?
Bon, parce qu'ils sont innocents, de sang, il n'y a pas de pardon. Mais justement, à cause de la, du fait que l'on est humain, donc on est là et on n'est pas dans la pensée divine, on n'aurait jamais pu venir avec un plan comme ça. Donc, Dieu a juste, dès le départ, enseigné clairement que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que c'est la transgression, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est aussi sacrée que Dieu lui-même doit avoir dans un latin des choses comme ça. Donc, la loi de Dieu est au même titre, et a le même statut que Dieu lui-même. C'est-à-dire que la transgression de la loi de Dieu, en fait, c'est pas un Dieu qui amène la mort, et c'est seulement quelqu'un qui égale à Dieu qui peut réparer. Ça fait que le deux sens des animaux, comme on dit, ce n'est même pas efficace, c'est une figure pour nous enseigner quelque chose. Mais Dieu, comme il est fidèle et que sa loi a le même statut que lui-même, il faut que quelqu'un meure. Maintenant, pourquoi dans la pensée divine? Parce qu'on fait vraiment.
Je pense en fait que ça demande pourquoi du sang. Je pense qu'elle cherche un jour dans les écritures, on a parlé de le sang, c'est l'essence de la vie. Alors c'est pas représentatif comme le sang de la vie.
Ah,
pourquoi?
Donc,
c'est
l'essentiel, c'est que la transgression, c'est la mort, en fond. Et il faut absolument qu'il y ait la mort pour qu'il y ait l'expiation. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un comme Cain arrive avec des fruits, il part complètement à côté. Et c'est pour ça que Dieu est aussi sévère avec lui. Parce que tu es en train de donner un faux évangile. Tu es en train de donner l'impression que l'on peut être sauvé, que la réconciliation avec Dieu est possible sans la mort. L'innocent. Donc, en partie, ce message était vraiment essentiel. Et vos 13, verset 20, nous dit aussi que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang de l'alliance et sa règle au Seigneur Jésus. Donc, la deuxième chose qu'on voit dans le parti, c'est la cuve des vins, n'est-ce pas, où les prêtres se nettoyaient et tout, qui fait référence à notre baptême. Fait référence au baptême de Jésus-Christ, qui fait référence à la résurrection de Jésus-Christ aussi. Donc voici pourquoi que ce verset parle de la vie du mort. Donc d'abord, Jésus-Christ, on ne peut pas venir à Dieu sans lui, nous tel est sacrifice, encore une fois Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un innocent qui meure pour que nous nous partions, et la plus des reins, là Dieu peut nous redonner la vie, la vie complète. Nos pionniers, pour pouvoir sortir du marasme de la grande déception de 1844, ont dû étudier la Bible, et ce qui a ouvert les yeux, nous avons à part les visions et tout, c'est spécialement le livre des Hébreux, parce que c'est là où on met l'accent sur le sanctuaire céleste, comme ça, et c'est là où un auteur biblique décrit de manière beaucoup plus détaillée que dans cette partie du Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le sanctuaire. Donc, structure en général du livre des Hébreux, Jésus-Christ supérieur au temps de révélation, Jésus-Christ en tant que leader, Jésus-Christ en tant que père, Jésus-Christ en tant que sacrifice, Jésus-Christ en tant qu'exemple parfait. Mais, pour encore se diviser, je vais juste en trois parties. Phase 1, la nature humaine de Christ. Phase 2, le sacerdoce de Jésus ou la petite prêtrise de Jésus-Christ. Et phase 3, Jésus qui travaille pour la perfection de son peuple. Alors, la nature humaine de Christ, juste. Le livre des livres est écrit sur le terre. Le livre est supérieur aux hommes, car à cause de l'Esprit dans le ciel. Il insiste aussi sur le fait que Jésus-Christ est venu sur terre avec la même nature que nous. Donc, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. N'est-ce pas? Ça veut dire que. Si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi atteindre un stade sans péché. Maintenant, il y a un gros débat là-dessus pour les gens qui pensent que Jésus-Christ n'avait pas la même nature que nous. Et bon, c'est tout un débat théologique, mais juste pour simplifier, pourquoi est-ce que je pense que c'est dangereux? Parce que si on dit Jésus-Christ n'a pas la même nature que nous, souvent l'argument des gens, c'est celui-ci. Si Jésus-Christ ressentait la tentation du péché comme moi je la ressens, c'est impossible qu'il aurait pu résister. N'est-ce pas? C'est ça l'argument, c'est que tu ne peux pas ressentir la tentation comme nous, humains, nous la ressentons et résister au péché. C'est ça l'argument. Mais la Bible dit non, il a eu la même nature que nous, il a ressenti les choses comme nous et il a fait le choix de ne pas pécher. Ça veut dire que la clé de la victoire contre le péché, ce n'est pas une question de qu'est-ce que je ressens, mais c'est une question de comment je vois les choses. C'est ça? Un petit exemple par rapport à mon fils. Je crois que vous avez vu que je jouais, il y a des petits chiens qui. Je mets des filles, des petits chiens au motocycle, là, et ils avancent, on met les filles, ils ont les yeux verts, ça salue, puis donc, ils avancent vers toi comme ça, les yeux verts, ils ont l'air de chiens, je ne sais pas. Ça fait que quelqu'un nous a donné le cadeau, puis on a mis le truc, on l'a mis devant. Quand mon fils, là le petit chien se déplace et tout, il a eu très peur. Et maintenant, si on se pose la question, moi je suis là, mon épouse est là, on regarde le chien, il fait un certain bruit. Mon fils entend le même bruit que moi. C'est ça? Le chien a les yeux verts qui s'allument, moi aussi je vois les yeux verts qui s'allument, le chien se déplace et tout. En termes de sens que l'on perçoit, là c'est la même chose. Et pourquoi est-ce que lui me panique et que moi je reste tranquille? Moi, je sais qu'il n'y a pas de menace dans ça. Mais pour lui, il ne sait pas, peut-être un chien vivant, peut-être que la taille, là, c'est une illusion, mais qu'il va grandir tout d'un coup, il va le voir. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est pour dire que la clé, là, dans le creux pour la victoire contre le péché, ce n'est pas une question de qu'est-ce que l'on perçoit, comment est-ce qu'on ressent les choses. C'est dans la tête. Donc, on doit recevoir le même esprit que Jésus-Christ, le même dégoût pour le péché, la même perception du mal, pour que lorsque les choses se présentent à nous, on puisse aller chercher le secours auprès de Dieu et avoir la victoire. Donc la raison pour laquelle l'homme pêche et l'homme tombe, c'est pas une question qu'on ressent les choses d'une manière plus forte que Jésus-Christ. C'est parce que dans notre tête, c'est pas une grâce ça. Ou dans notre tête, il n'y a pas de solution. Dans notre tête, ça ne nous intéresse pas. C'est l'histoire de comment on voit les choses. Donc Dieu travaille notre cœur pour que nous puissions voir les choses comme lui. Ensuite, le sacerdoce de Jésus, son ministère au ciel, et finalement la perfection du peuple de Dieu pour avoir à travers les deux sur son phase. Donc phase numéro 2, le lieu saint. Donc dans le lieu saint, on trouve les articles suivants. La table fait pas de proposition, le chandelier d'or, cette branche, et l'autel des parfums pour l'intercession. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, et je lui donnerai un caillou violent. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On est dans le début de l'île d'Apocalypse, si vous vous rappelez de la présentation de Jean-Michel vendredi, on est dans le début de l'histoire de l'église aussi. Vous allez remarquer en lisant le livre de l'Apocalypse, que Jésus-Christ, en train de parler de Jésus dans son sanctuaire, en train de parler de son mouvement, Jésus-Christ se déplace dans le sanctuaire en partant du lieu saint jusque vers le lieu très saint dans l'île d'Ascalisme. Vous voyez dans le champ des ors, vous voyez à faire de fin de fonction, vous voyez son trône, puis vous voyez intercéder, vous voyez rentrer plus tard lorsque le lieu très saint s'ouvre. Donc Jésus est en mouvement constant au fur et à mesure que le lieu d'Ascalisme progresse. Et là, il parle de la main cachée, donc c'est pour dire le pain, qui représente la parole de Dieu, que Jésus-Christ donne alors qu'il est en train d'intercéder dans le ministère du Dieu Saint. Donc, entre le moment où il est mort, puis le moment où il est rentré en Dieu Saint, qui est en cœur. Aussi, dans cet exemple, écrit alors sur l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, l'autre partie. Et on invite verset 34 qui dit « Qui est condamné à Christ est mort, bien plus il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous en faisant référence à l'autel des parfums. » Donc, vu que Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, il s'assure que son peuple reçoit la parole de Dieu. Ouais. Il s'assure que son peuple reçoit la parole de Dieu, même si le diable agit à ce niveau. Il s'assure que son peuple peut être la lumière du monde et il intercède pour son peuple. Et à cette phrase a été la phrase la plus longue. Et le sanctuaire a été attaqué à tous les niveaux pendant cette phase. Donc, pour l'autel de sacrifice, déjà on dit que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Donc, à travers l'Eucharistie, le pouvoir de sacrifier Jésus encore et encore. C'est ce que l'Église catholique enseigne. La cuve des reins, le baptême, quand tu es grand, il dit que tu acceptes consciemment de suivre Jésus-Christ. A été vu comme quelque chose qui n'est pas essentiel, donc on peut baptiser des enfants. La table des pleines propositions, le peuple avait de la difficulté à avoir accès à la Bible pendant que Jésus était dans le lieu très saint pendant cette période de sa résurrection, jusqu'à 1844. Le chandelier d'or diffusait les témoignages de la persécution de ceux qui osent parler à Dieu. L'autel des parfums, il faut prier les saints et non à Dieu directement. Le confessionnal, l'imitation du sanctuaire céleste et l'arche de l'Alliance où le pape s'appelait le Saint-Sanctuaire. Et le changement de la loi, le sabbat et le dixième commandement pour que ça puisse être utilisable. Mais Jésus, dans cette même période, il a travaillé avec son peuple pour restaurer ces choses-là. Donc on dit que Jésus interprète pour nous, mais concrètement sur terre, qu'est-ce que ça donne? Il a vu toutes ces attaques, il a restauré ces choses-là. Donc, en 1300, John Wycliffe a traduit la Bible pour la première fois dans l'angle des hommes. Ça c'est pour ramener la parole de Dieu au peuple, la table des fins de proposition. Dans les années 1400, Matthieu en enfant Luther, avec le début du protestantisme, sauvé par la foi et non par la grâce, donc c'est la restauration de ce sacrifice, de l'autel des sacrifices. Dans les années 1500, Jean Calvin, l'église presbytérienne, la prière est une chose très importante, restauration de l'autel des parfums, donc c'est l'invité revient dans l'église pendant que Jésus est en train d'intercéder au ciel. Dans les années 1600, Jean Smith, la l'église baptiste, importante de la Judéa, le baptême, l'autre. Dans les années 1700, Wesley, l'église méthodiste, les missions sont très importantes dans être la lumière de chandelier d'or. Mais dans les années 1800, le mouvement adventiste, ensuite l'église adventiste, c'est un jour, je vais mettre l'accent sur ce qui se passe dans le lieu de la salle. Oui.
Je vous ai dit qu'on était pris par la foi, non par la grâce.
Pardon?
Je vous ai dit qu'on était pris par la foi, non par la grâce.
La grâce et la foi seulement.
Mais
c'est une
non par la grâce.
La foi et la grâce seulement, ils vont par les œuvres. Non par les œuvres, puis les choses. Donc c'est ça, plusieurs interprètes dans cette période, concrètement sur la terre, ça se traduit de cette manière-là. Et maintenant, dans l'émission, Dieu, avec le mouvement adventiste, il est en train de se dire, oh, ben, on a l'expérience qui se passe dans le lieu très simple. Je mets ici un exemple de photo des choses de mieux garder dans le monde. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'il y a dans les banques suisses pour garder leur stock d'or. Parce que le stock d'or, c'est très important alors de la manière qu'il s'agit sur le stock d'or. Et chaque pays a son stock d'or très très bien gardé. Donc, si tu rentres dans la banque fédérale, pour l'accueil, certaines personnes peuvent entrer, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent entrer. Et plus tu te rapproches de l'endroit où se trouve le stock d'or, moins il y a de personnes qui ont accès à ça, parce que c'est des choses extrêmement bien gardées. Donc je ne sais pas qui exactement a accès, mais c'est très peu de personnes. Et ce n'est pas tout le temps qui rentre là-dedans, tout ça. Donc ce que les nations chérissent le plus, ce que les nations protègent le plus, en général, c'est leur stock d'or. Quand je posais la question du point de vue de Dieu, que le sanctuaire c'est une représentation de ce qui se passe au ciel, et que de la même manière aussi, plus tu te rapproches du centre du sanctuaire, moins il y a des personnes qui peuvent avoir accès. Parce que dans ta vie, tout le monde peut venir avec son animal à sacrifier. Dans le milieu saint, c'est seulement les prêtres qui peuvent aller faire les va-et-vient, mais dans le milieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur qui peut rentrer.
Une fois.
Et une fois par année. Donc ce n'est pas fréquent. Maintenant, si Dieu met la même séquence pour que l'accès soit difficile, qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu très saint qui est tellement important, qui est tellement précieux?
Non.
Hein? La présence de Dieu.
La loi.
La loi de Dieu. La présence de Dieu a dit ce problème, hein? Mais la loi de Dieu. Donc on voit une perspective divine de quelque chose vraiment important, totalement différent. Parce qu'en termes de matériel, si vous enlevez le corps, les tables sont en pierre, mais ça, c'est pas une valeur, c'est pas une grande valeur. Mais parce que ça reflète la loi de Dieu, le caractère qui Dieu est. Vraiment, c'est ça qui est le mieux gardé au ciel. Avec Jésus, il est deux choses en protecteur à la loi de Dieu. Ok, regardez ça. Lévitique chapitre 7, verset 15 à 17, nous parle d'un peu de ce qui se passe au Yom Kippour une fois par an. Le souverain sacrificateur, en parlant d'avant ici, il égorgera le pauvre, expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile, il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc, le souverain sacrificateur devait sacrifier un taureau pour lui-même, parce qu'il n'est pas Jésus, donc lui aussi a besoin de pardon, et il faisait le pauvre qui avait reçu le sort pour l'éternel, ça il faisait pour le peuple. Et d'autres groupes dans la terre recevaient son sort, plus tard. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, la purification du sanctuaire se faisait de cette manière-là. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Un peu plus loin dans le même chapitre, il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang sur l'autel et il purifiera et sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher ce pauvre homme. Donc, les péchés sont accumulés pendant toute l'année parce que les gens venaient confesser leurs péchés au sanctuaire. Mais une fois par année, le souverain sacrificateur fait un rituel similaire pour purifier le sanctuaire. Donc, pour aller d'abord, pour ensuite toute la nation, quand il asperge du sang, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation du sanctuaire. Donc, encore une fois, juste un élément important. Beaucoup de gens pensent que les Adventistes sont un peu bizarres parce qu'ils mettent là-dedans un bouc pour Azazel, si on veut, pour Satan, et qu'ils participent au processus d'expiation, ça veut dire que l'enfant, on a besoin de Satan quelque part dans l'équation pour être sauvé. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais si vous lisez bien la Bible, ça dit que lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, pour la tente d'assignation et pour le père, il fera approcher le bouc vivant. Ça veut dire que quand on amène le bouc pour Satan, c'est déjà achevé. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans le lieu des saints et d'asperger l'expiation est terminée. Le travail de purification du sanctuaire est terminé déjà. Maintenant, pourquoi on amène le bouc vivant? Ça, c'est pour illustrer le fait que si tu n'as pas confessé tes déchets, tu vas périr dans le désert. Tu vas porter tes propres déchets. Mais ce n'est pas pour aider dans le processus d'expiation. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, on n'a pas besoin de Satan pour être sauvé. On a juste besoin de Jésus-Christ. Mais Dieu veut illustrer qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne confessent pas leurs péchés. Parce que seulement Dieu, si c'est possible, ou ton péché est confessé dans le sanctuaire, purifié, ou t'es mis à l'écart et tu t'es mis dans le désert. Maintenant, ça, ça faisait référence au juif. Oui, pardon.
C'est quoi le sens que vous avez de la question de l'art de l'âme et la culture dans le monde? Parce que le sacrificateur sur l'âme, il est aspergé d'un sang.
Oui, c'est un symbole pour le transfert du péché dans le sens. Le péché part de moi, le pécheur, qui le met sur la tête de l'animal, qui le sacrifie. La vie de l'animal est dans le sang est pris, et allez, donc le péché, de manière figurative, se transfère dans le sanctuaire. Et maintenant, la même chose, à la fin, de manière figurative, un sang pur est lancé sur ce même sang pour effacer le péché. C'est ça, en anglais, c'est plus clair, là, blood in your sin. C'est plus. Je trouve que c'est plus. Que ce que tu avais dit. Donc, c'est ça, maintenant, ça c'est un symbole, c'est une figure, c'est une parabole de ce qui se passe vraiment au ciel. Et au ciel, il n'y a pas littéralement un Jésus qui prend son de la servir sur l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la purification du sanctuaire, c'est en fait le jugement pour écarter le péché. Donc c'est ça qui se passe au ciel. Daniel chapitre 7, verset 9 et 10, il regardait pendant que l'on sortait des trônes, et lorsque les jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers de serpents et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, sur terre, il n'y a pas de livre, c'est le sort. N'est-ce pas? Est-ce que quelque part on pourrait le prêtre bien étudier quoi le péché qui est écrit sur terre? Non. Mais le transfert du sang, c'est une image pour montrer ce qui se passe au ciel. Mais aussi, à chaque fois que l'on confesse, ça passe dans des livres. C'est ça la différence. Maintenant, il y a six de livres. Il existe dans le ciel trois types de livres relatifs au jugement. On dit des livres pluriels, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi ces livres-là? Numéro 1, il y a le livre du vie, qui est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et par exemple, dans Apocalypse 3, verset 5, on dit « Celui qui vaincra soit revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses hommes. » Donc, un des livres, c'est le livre de vie, qui a la croix qui se lit. Et je lis cela pour montrer que nos noms peuvent être dans le livre de vie, mais nos noms peuvent être aussi effacés du livre de vie. À chaque fois que quelqu'un avance au service de Dieu, quelqu'un accepte Dieu, son nom est écrit dans le livre de vie. À chaque fois que quelqu'un abandonne la main de Dieu, comme j'imagine Judas, son nom est effacé du livre de vie. Ça, c'est juste une liste de noms. Ça ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait, c'est juste une liste de noms. C'est pour ça qu'il y a deux autres livres. Il y a le livre de souvenirs aussi. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, il écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent. » Donc le livre de souvenirs, c'est pour qui? C'est pour ceux qui craignent, pas pour ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, donc, nous tous ici, à la parole de Dieu, Dieu écrit toutes les bonnes actions, si on veut, que l'on fait à travers son Dieu, parce que son esprit saint, aussi, il est écrit dans le livre des souvenirs. Ça, c'est le Dieu souvenir qui est pris en compte dans le jugement. Lévitique 13, verset 14 dit : Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété, comme la présentation, à l'égard de ma maison, de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. Toutes nos belles actions faites par la main de Dieu écrites dans le livre de souvenirs. Nous, les noms de ceux qui sont sauvés écrits dans le livre de vie. Il y a les péchés aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est le troisième livre. C'est le livre des péchés. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16, dit car Dieu amènera tout seul en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, livre de souvenirs, soit mal, livre de péchés. Et Ésaïe 65, verset 6 et 7, ça dit voici, cela est écrit devant moi. Mais alors, qu'est-ce qui est écrit devant lui? Et je ne me tairai point, mais je rendrai, dans leur sein à la foi de l'Éternel vos iniquités et les iniquités de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines, et je mesurerai dans leur sein leurs œuvres passées. Donc, les iniquités des gens, c'est ça qui est écrit devant lui. Ça, c'est le livre de Dieu. Donc, quand au ciel, on se rend compte, il y a Le souvenir, il y a du péché, il y a un livre de vie. Et dépendamment de ce qui est dans les livres de péché ou de souvenirs, on va déterminer si notre nom reste dans le livre de vie ou pas. Oui. Il y a démonstration que tu as accepté Jésus-Christ. Donc tes péchés sont effacés. Dans ce livre de péché, il n'y a rien qui te concerne. Et il reste seulement ce que tu as fait par la grâce de Dieu et ton nom sur le livre de vie. C'est pas que tu rentres au ciel comme la perfection. Tes péchés sont effacés. Si c'est effacé, c'est parce que ça a été écrit avant, tu comprends? Donc, mais pour ceux, maintenant, qui n'ont pas remis leur vie à Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que ces péchés demeurent. Et leur nom est effacé du livre de vie. Parce que soit tes péchés sont effacés, soit ton nom est effacé. Ok, donc, c'est ça. C'est comme ça que je me souviens. Maintenant, ok, voici une description de ça dans Galates 5, page 527-532. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés, non, c'est pas ce que j'ai dit avant, c'est pas ça. L'effacement des péchés auront lieu avant le retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, on vient de voir ce qu'on se dit, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. L'apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été désigné, Jésus-Christ. Donc, l'instruction du jugement dernier, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, peut-être, si je comprends bien la question, ou peut-être d'autres posent la question, c'est parfois l'impression que, parce que l'on confesse nos péchés, Dieu nous pardonne et c'est effacé tout de suite, mais c'est pas ça qui se passe. On confesse nos péchés, c'est enregistré dans le ciel. Parce qu'on le confesse ou pas, c'est enregistré dans le ciel encore. Et maintenant, basé sur la confession, on va s'effacer au nom. Mais ça, ça arrive pas à chaque fois que je confesse, ça arrive quand mon nom arrive devant le tribunal divin, et qu'ils vont décider si je suis sauvé ou pas, ils examinent Dieu, et là ils décident d'effacer ou pas. C'est pendant ce temps, si mon nom n'est pas encore passé, ben mes péchés sont encore là, à écrire. Oui.
Merci de la confession.
Merci de la confession. Oui.
Donc finalement, c'est peut-être qu'on ne comprenait pas bien, et qu'il y a une différence entre le pardon régulier quotidien de nos péchés et le jour du grand pardon. Qui est
l'effacement. C'est ça. Et le sanctuaire, je l'explique parfaitement, chaque année, quand le sanctuaire terrestre, n'est-ce pas, il vient confessé, donc ça ne va pas cumuler dans le sanctuaire. Et c'est là, pendant les 360 jours de l'année, c'est là. Mais quand on arrive finalement à la fin, là, c'est effacé si tu confesses, puis si tu es à côté, ben, c'est pas effacé. Donc c'est exactement le même concept que nous enseigner qu'est-ce qui se passe vraiment dans le lieu très saint, et c'est la même chose. Donc, nos péchés sont là tant que notre nom n'est pas passé. Mais ça ne veut pas dire que c'est là contre nous, c'est juste que Dieu doit vraiment examiner les choses justement.
Voilà, je comprends pas. So, what happens? Notre tour vient quand on meurt. Parce que je dirais, si mon cas passe avant de meurtre, et bien, les autres péchés, what happens to them?
Non, depuis que Jésus est rentré dans les présents, le jugement a commencé. En commençant par les morts, jusqu'à. Ensuite, on va arriver au vivant. Mais, Jésus-Christ, oui, ça fait beaucoup de personnes. Donc, toutes les personnes qui ont vécu depuis le début, ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu aura fini d'examiner tous les cas des morts et puis il va arriver sur les vivants.
Mais,
ça veut dire qu'ils vont pécher après, quoi. Oui, parce que. Il y a quand même une analyse de ceux qui sont pas sauvés, hein, mais c'est vrai que Dieu met la priorité sur ceux qui sont sauvés, parce que n'oublions pas que ceux qui sont pas sauvés, il y a un autre 1000 ans pour continuer à les juger. Mais nous, Dieu doit s'assurer que, en arrivant au ciel, s'assurer que c'est le cœur de l'homme au ciel. Pas que les gens disent que Dieu est là, mais est-ce que. Est-ce que... La priorité. La priorité, c'est comme imaginez, comme beaucoup de terroristes se sont dit, imaginez que vous êtes dans une équipe de policiers pour aller sur un lieu où il y a des otages. C'est quoi votre priorité? Est-ce que c'est de sauver les personnes qui sont là? Ou c'est de sauver les otages, pardon? Ou c'est de sauver les otages et les terroristes, et ensuite faire des jugements? Votre priorité, c'est les otages. Donc Jésus-Christ nous voit comme des otages sur cette terre. Donc quand il vient, sa priorité, c'est de prendre ceux qui sont à lui, qui va venir bien le reste après. Donc le jugement, c'est d'abord la maison de Dieu, c'est pas la physique, le jugement commence par la maison de Dieu. Donc c'est ça. Maintenant, quand est-ce que mon nom va passer en tant que vivant, la seule chance, c'est pas.
Mais on a le péché après.
Bon, maintenant, oui, c'est ça. Maintenant, quand le nom des vivants passe, ça c'est sûr, c'est un saint état, c'est là où vient que celui qui est le saint.
Mais il y a des gens qui le retrouvent. Ils sont meurs tous les jours, c'est un moment, il va toucher par le jugement,
il y a un moment où Dieu cède son homme. Et le sort est déjà fait, même si je ne pas. Par exemple, le déluge. À un moment où Noé est rentré dans l'arche, c'est le déluge est tombé il y a eu 7 jours. Je ne suis pas mal sûr que pendant ces 7 jours, il y a des gens qui sont morts. Mais leur sort était déjà décidé. Vous comprenez? Oui. La loi de
la fin du jugement de mort, comment ça, le
jugement de mort. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Avec la loi dominicaine.
C'est-à-dire la loi dominicaine. Ah, ok. La fin du temps de grâce, c'est ça qui a. Quand le temps de grâce arrive, il y a dit de juger son vivant qui est mort. Maintenant, à quel moment exactement est-ce que Dieu va passer des vivants aux morts? On ne sait pas. Alors, dit. Pardon?
Après la loi dominicale, personne ne
peut s'en. Non, parce que quand la loi dominicale passe, n'oublions pas que la loi dominicale passe en phase. Donc, on va voir la loi du dimanche arriver, au début, ce ne sera pas une menace, non, vous savez ça? Au début, ce sera juste un jour de repos, on va continuer d'observer le sabbat et tout. Mais, pour nous, ça va sonner l'alerte que c'est fini, parce que la boule de neige est enclenchée. Donc, quand la loi du dimanche vient, à ce moment-là, ça devient la marque de la bête. Donc, on a encore à prêcher à des gens, cette fois, comme recevoir la marque de la bête, c'est une dernière chance d'être sauvé. Donc, il y a encore un temps de grâce, c'est-à-dire que Dieu sera encore en train de juger les gens. Maintenant, exactement mort ou vivant, on n'est pas là-bas, on ne sait pas.
Ce que je veux dire, c'est que ça dit qu'on commence avec la maison de Dieu.
Oui, tout ça.
C'est la loi dimanche de France qui fait la fin de Dieu.
Non, la loi dimanche, la loi du dimanche ne déclenche pas
la
la loi du dimanche n'est pas liée à la
fin de France de la maison de Dieu.
Non. La loi du dimanche est juste quelque chose qui arrive sur terre là, parce que Satan essaie de nous persécuter. C'est ça, Satan essaie de nous persécuter. Maintenant, c'est juste que Dieu va estimer que lorsque la loi du dimanche va venir, les péchés de Babylone vont rater jusqu'au ciel. Donc, comme ça, il y a un moment. Donc, ce sera le dernier appel pour que les gens sortent de Babylone. C'est-à-dire qu'il y a encore un temps de grâce, très court, certes, mais il y a encore un temps de grâce. Maintenant, il y a un moment donné où le temps de grâce sera fini. Nous, on va savoir que c'est fini quand on va voir les 7 plaies tomber. Ce sont les plaies tombent, tu sais que c'est fini. Parce que ça vient après. Donc, mais avant ça, à quel moment exactement Jésus fait le switch entre les vivants et les morts? Ça, on ne sait pas. Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est lui qui est mort dans la vie et qu'on va découvrir. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous montrer ça publiquement, puis je n'ai pas vu dans l'esprit prophétie où on nous dit à tel événement, on va savoir que Dieu est parti des morts. Tout ce qu'on fait, c'est qu'il commence par les morts jusqu'au vivant, et qu'il commence par la maison de Dieu parce que c'est nous qui sommes en étage.
Sauf Dieu, commencé par les morts, juste sa vie, ça doit le plus avant. Ce n'est pas un random.
Toutes les personnes qui ont existé sur la terre, toutes, Jésus. Oui, en partant dans l'orthologie, en commençant dans les jours, on remonte jusqu'à nous. Donc là, je ne sais pas, peut-être que là, ils sont arrivés au temps des réformes. Je suis Martin, il est à M. Mais que c'est la poche de nous. Je ne sais pas pourquoi, avec les religieux, comment ils font ça. Mais. Ça a arrivé depuis 1844. Il y a un autre élément important, c'est que si vous comparez le temps qu'on faisait à son officier régulièrement dans le sanctuaire, c'était toute une année, versus le Yom Kippour, une journée, le temps dans le maîtresse est très court par rapport au temps dans le parmi les lieux saints. Donc, si je suis dans le maîtresse depuis 1844, je dis qu'il me reste très peu de temps. Parce que le parallèle doit fonctionner.
Mais est-ce que tu es sûr que tu n'es pas encore dans le lieu du monde?
Je pense que lors de l'époque d'église, il faut avoir quasiment comme une école d'avantage. Dieu ne donne pas de date parce qu'il nous découvre. Parce que ça fait trop facile de dormir. Il ne reste encore trois jours. Il va mettre la terre. C'est compliqué, c'est pas attention. Pour vivre comme si c'était déjà commencé.
Mais
quand la loi du dimanche en passé, le peuple, les gens du peuple ne vont pas être encore jugés. Donc, ils sont des adventistes. Ça veut dire qu'ils vont juger le peuple avant. Aussi, le fait qu'il y a la loi du dimanche, je sais que j'ai encore du peuple qui n'a pas encore jugé le peuple. Je sais, mais je suis encore dans la loi du dimanche, je vais vous présenter.
C'est pas l'objet d'une autre présentation, mais pour les adventistes ou le peuple de Dieu, nous on passe avant. Parce que c'est nous qui avons eu la révélation, n'est-ce pas? Et ensuite, les autres. Donc, quand ces lois arrivent et tout, je pense que aussi qu'ils disent que vous n'êtes pas encore sorti des villes, c'est maintenant ou jamais. C'est sûr que Dieu aura déjà fini de voir un peu ce qui se passe avec les Islamistes, puis le criblage va juste accélérer. Donc, il serait bien de ne pas jouer avec le temps que quand la loi arrive, parce que moi, je pense que pour les Islamistes, là, ce sera trop tard. Oui.
C'est juste qu'au niveau du jugement, pour comprendre, ok, on est toujours jugé dans le sens que c'est pas comme si Dieu a fini tout pour la fin. À notre quotidien, on reçoit des jugements, tout ça, mais le jugement, c'est celui qui fait partie soit dans la vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, tout ce qui se passe avant le retour de Christ concerne le peuple de Dieu. Fait que, soit du dimanche ou pas, par rapport avec tous ceux qui ont proclamé avoir mis leur foi en Dieu, qui sont restés ou pas. Le jugement des méchants, pour une fois, je me trompe, c'est pendant le millénium. Il n'y a pas rien à. Je parle à vraiment qu'on revoit les cas pour la décision finale. Quand une décision finale, mais là, quand on parle de jugement, c'est la révision des cas, vie par vie. Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, c'est pendant le millénium. Parce que c'est ça que c'est ma passion, comme l'idée de
là. Oui, donc c'est ça. Dieu s'attend à ce que nous soyons prêts avant tous les autres, parce que nous avons le plus de venir. Voilà. Ça fait que la loi du dimanche, là, ce n'est pas supposé être un moment où nous commençons à demander ce qui se passe. C'est supposé être très utile. Longtemps, ça fait que quand ça arrive, on fait juste sortir. C'était ça. Maintenant, pour être prêt, tu dois faire ce que moi j'ai fait sur 15 ans. C'est ça. Et tu as 6 mois. C'est ça qui doit se passer. Oui.
C'est très correct de dire que the theory of God, c'est un concept dans la vie. Ou est-ce que c'est un moment où tu veux dire, ok, c'est un jour free de theory?
Non, il y a un moment où on est serré, là, où Dieu a décidé que cette personne-là se détournera plus. Il y a l'exemple, on peut prendre l'exemple quand Abraham devait sacrifier son fils, Dieu a dit maintenant je sais. Je suis sûr que depuis ce moment-là, jusqu'à la fin de la vie d'Abraham, il n'y avait rien qui pouvait le détourner. Donc Dieu sait par quelle expérience nous faire passer pour qu'à un moment donné, il dise maintenant je sais que Josué, même, il n'y a rien qui va le détourner. Maintenant je sais. C'est carré, vous comprenez? Mais ça, c'est individuel, c'est Dieu qui nous fait passer par le fond de la vie. Mais le but, c'est de nous emmener là.
Et le contraire est aussi vrai aussi. Le contraire est aussi vrai.
Oui, comme
ça. Et moi, je sais que ça tenait à être aussi
vrai. Exactement. Oui, bon.
Justement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'honneur d'essayer de fixer le temps maximum ou la dernière à l'aide, ou la trouver ou pas, parce que
c'est pas pour prix pour la personne, mais on ne sait pas combien de temps nous personnellement on a. Il y en a des plus connus qui sont allés à l'heure du dimanche. C'est que si on attend d'avoir, si on attend minuit mais pour faire ça, moi j'ai dit par contre, mais ça ne peut pas prendre un minuit mais c'est que c'est important de savoir c'est quand la date limite, hein, parce que tu ne connais pas ta date de rentrer à toi. Donc, c'est une faute que j'ai dit. Hein.
C'est bien vrai, il y a pour des expériences personnelles, les femmes, là, je veux que c'est juste pas possible.
Pour acheter sur la pointe de Nadia, moi je vois que l'histoire de José, en fait, a dit quand il demande, pour moi, dans les choses de l'Esprit de Seigneur, mais justement, il fait il demande au peuple de faire un choix, soit servir ce Dieu-là, ou soit servir notre Dieu, Yahweh.
Oui.
Non, parce que ça parle toujours, le temps a toujours été prêté, depuis le début de la vie, ça a donné, donc nous, en Dieu, encore 2007, mais bon, on s'en fout de prêter, parce qu'on a fait parler, mais. La mentalité de dépêcher vous, ça a toujours été même avant, avant même le ministère de Jésus, parce que ça a toujours été à propos de la croissance spirituelle, ça a toujours été à propos de la fin de Dieu, pour jamais dire que même si Jésus n'est pas encore venu, ça a toujours été le point de vue.
Mais regarde Abel, il a fait une sorte de position, il a fait une sorte de péché, ça date de la lumière avant l'autre péché qu'il a suivi.
Donc, merci beaucoup pour les commentaires et les questions. Donc, c'est vraiment un sujet. Pardon?
Oui, oui, je voulais juste mentionner le fait qu'il y a un frère adventiste que vous connaissez, dont je ne vous ai pas le nom, qui me dit que le processus de serment a déjà débuté et que lui, il est scellé. Ah, donc, j'aimerais savoir ce que tu penses de ça, bibliquement parlant. Est-ce qu'on peut savoir, premièrement, est-ce qu'on peut savoir que le processus de serment a déjà débuté? Et est-ce qu'on peut avoir cette assurance que j'ai été scellé et que le péché est moi entre les deux et que je ne pécherai plus quand il est
scellé? Le processus de serment est là depuis le plan de rédemption entré dans le monde, comme le dernier exemple d'Abraham, que lorsqu'il a été un monde perdu au dimanche, qu'on a fait de Dieu. Nous, on a une expérience plus spéciale où Dieu montre vraiment qu'il va délier les anges et qu'il va avoir. Les événements de la fin vont se précipiter et il va tirer un groupe en particulier. N'est-ce pas? En général, je vois pas le moment où on peut toujours savoir si on essaye ou pas, mais ce qu'on sait, c'est que pour la fin des temps, ceux qui passeront à travers ce moment-là et qui vont voir les événements se produire et voir le vrai, on sait que, on saura que on fait partie des 144 000, on saura qu'on est scellé. Oui, sauf que maintenant, aujourd'hui, je ne prononcerai pas là-dessus, donc je veux dire. C'est Dieu qui détermine si on est ou pas, c'est pas à nous de.
En fait, c'est pas la question parce que quelqu'un qui dit je suis scellé, qui moi une question des deux, c'est très compliqué parce que mon truc de Dieu, c'est que être scellé, c'est pas que tu ne peux plus pécher. Être scellé, c'est que tu as fait tellement d'expérience avec Dieu que tu as fait ton choix. Mais la parole de Dieu est claire aussi pour que quelqu'un vit juste au retour de Jésus, pas jusqu'à la deuxième probation. Juste au retour de Jésus, nous combattons contre la chair. Les scellés, c'est ceux qui vont systématiquement voir le monde de Jésus. Parce que c'est arrivé, il y a eu, dans le mouvement adventiste, il y a souvent eu ça, des gens qui disent ok, moi je suis scellé, donc je ne peux plus pécher. Ça c'est faux. Parce que le péché, ça toujours, on va toujours lutter ça. Parce que il dit que je viens de la tentation de quelque chose, mais je ne veux pas ça. Une personne scellée, c'est une personne qui a fait le point de non-retour en termes de systématiquement choisir la volonté de Dieu au-dessus de sa volonté. Mais la lutte entre la chair et l'esprit va donner jusqu'au retour parce que la parole nous dit que la corruption ne peut hériter de l'immortalité. Il faut que notre corruptibilité devienne incorruptible, que ce corps mortel revienne l'immortalité. C'est seulement lorsqu'on aura notre corps physique transformé que là, vraiment, on pourra dire que le péché n'a plus d'entrée. Il n'y a plus de possibilité.
Merci beaucoup.
Moi, Cameron, je suis mais est-ce que vous savez à ce moment-là que j'étais
je ne sais pas si lui, forcément, comme il a vu, c'est sérieux ou pas, mais pour nous qui disons la vie avec le recul, c'est clair parce que tu vois le reste de ta vie et tu vois la déclaration de Dieu en fait. Donc, moi, je me place avec le recul. Mais je ne sais pas, lui, dans son esprit, qu'est-ce qu'il a compris dans sa foi. Mais certainement, il a compris et il a grandi dans sa foi. Certainement.
Oui. Mais c'est comme si on était en train de tout parallèle. C'est comme on parlait tantôt d'examen. Soit c'est qu'on se prépare dans l'examen, on aurait plus de confiance de savoir comment passer cet examen-là. Peut-être qu'on ne va pas le passer, à des gens qu'on va le jouer, mais on a plus de chance. Si on aurait la dernière idée, on va plus savoir, on va plus l'examen. Donc ça peut faire aussi sur le tellement qu'on veut voir comment notre délai. Mais regardons notre vie, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas nos habitudes, ça va nous donner une idée que est-ce qu'on va être sérieux ou pas, puis il y a des choses qu'on fera pas couler, parce qu'il y a quelque chose d'être pour l'avancer.
Oui, parce que l'enfant, si on est nageur, c'est pas comme ça, il y a une surprise comme ça.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un dernier livre qu'on avance, c'est permis, oui?
Je sais pas pour le seul, mais je sais que dans un collègue, on dit que celui qui croit être de vous,
On termine donc pour résumer le plan du sanctuaire, le plan de salut, pardon, dans le sanctuaire. Regardez les articles et essayez de passer la vie de Jésus à travers cet article, puis ça vous donne une bonne idée de ce que Jésus-Christ a fait. Comme il est descendu sur terre en prenant la nature humaine, donc le parvis, il est né avec les animaux, les petits animaux qui ont été sacrifiés, n'est-ce pas, dans une crèche. Baptême à la résurrection de Jésus-Christ, il est monté au ciel, il est monté à faire son sanctuaire céleste, donne son pain à son peuple, il permet à son peuple d'être à la lumière, il interprète pour son peuple, on a vu qu'il y a une lutte entre Satan, le Satan et Christ, disons, les serviteurs de Satan et servis de Christ sur terre, par rapport à la vérité, les vérités du sanctuaire sont bafouées, mais par le travail de Jésus-Christ au ciel, il suscite des serviteurs pour restaurer ces vérités-là. Ensuite, Jésus rentre dans le lieu très saint pour commencer l'œuvre du jugement, afin de pouvoir achever l'expiation, l'effacement de vos péchés. Et comme le chemin sacrificateur, il sortait à la fin pour bénir son peuple, il va revenir nous chercher. Et comme Azazel, qui le groupe l'histoire d'Azazel, vit dans le désert pour périr, Satan va périr dans le désert et tous ceux qui ont choisi de le suivre. Donc c'est ça, la vie de Jésus-Christ, c'est ça le plan du salut dans le sanctuaire. Et je donne, comme ça, pour aider les gens à soutenir les articles, imaginez qu'il y a une croix ici, n'est-ce pas? Donc ça vous aide à vous rappeler un peu à peu près les articles. Et pour ces articles qui sont là jusqu'à l'hôtel des parfums, imaginez que c'est chacun des endroits où Jésus a reçu une blessure. Donc c'est deux mains crucifiées ici, la tête avec l'épine, ses pieds qui ont été cloués à la croix, et son côté qui a été percé où de l'eau et du sang est sorti. Ici, comme les sacrificateurs, ils venaient avec du sang, n'est-ce pas, ils se nettoyaient avec de l'eau, mais il y avait de l'eau et du sang qui venaient ici. Donc si vous avez Jésus-Christ crucifié là, vous voyez tous les articles du sanctuaire, c'est facile de vous rappeler. Et après, le reste, la glorification, l'histoire où on est après l'enseignement de Dieu, qui était écrit au-dessus de la croix, c'est aussi le roi des Juifs. C'est ça? Le sanctuaire, c'est comment est-ce qu'on parle d'un monde de péché, enfin, d'un état de péché pour revenir à Dieu. Donc, on voit aussi les étapes simples de retour. Justification, sanctification, glorification. Parce qu'on est dans le même pas. Ok, on achève. Ok, les objectifs du plan du salut. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça? C'est quoi les objectifs qu'il avait en tête? On peut en voir de plusieurs manières. Jonathan en a parler un peu, mais disons que tu m'as en quatre, qu'est-ce que Dieu a pensé, pourquoi est-ce qu'il a fait le plan de salut comme ça? C'est pas déjà un deuxième extraordinaire, c'était une équation. Tout seul, un esprit divin pouvait résoudre, n'est-ce pas, avec le bon de Dieu. Vraiment, il faut justifier le caractère de Dieu. Si nous ne voulons pas, la racine là, de la rébellion, c'est que Dieu n'est pas juste et que sa loi est impossible à observer. Donc, il y en a un exemple dans Job, par exemple, où Satan dit les temps et touche à ceux qui lui appartiennent, je suis sûr que tu maudis en face. En d'autres mots, il te sert parce que tu le bénis, mais personne ne peut t'aimer par amour. Parce que tu n'es pas un Dieu qui mérite d'être aimé par amour. Parce que tu n'es pas amour. Parce que tu n'es pas vraiment ce que tu prétends être. Donc, Dieu doit justifier son caractère. C'est-à-dire qu'à travers toute l'histoire du péché et ce que tu fais dans le sanctuaire, il faut qu'à la fin, tout le monde puisse dire Dieu est juste. Et la justice de Dieu est tellement poussée que Dieu n'est pas juste satisfait que. Deuxième point, Dieu n'est pas juste satisfait que ceux qui n'ont pas péché disent que Dieu est juste. Dieu veut que même ceux qui ont été détruits arrivent à la conclusion qu'il est juste. C'est un niveau de justice supérieur à ce qu'il y a sur ta terre. Sur cette terre, quand tu fais un crime et tu vas devant la cour, que le coupable est reconnu qu'il soit coupable ou pas, c'est pas important. Tu vas aller en prison si Dieu a décidé qu'il va en prison. Mais Dieu, dans sa justice, avant de détruire finalement les pécheurs, il va s'assurer que eux-mêmes sont convaincus. Ça, c'est incroyable. Donc, le deuxième objectif, c'est de s'assurer la loyauté des êtres qui n'ont pas péché. Parce que, on en parle, il y a d'autres qui ne sont pas les seuls qui peuvent créer, n'est-ce pas? Donc, quand le péché est entré dans le monde, en résolvant le problème du péché, Dieu veut s'assurer que les autres vont rester fidèles. Et convaincre le juste. Il a pu révéler, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé pardon maintenant ceux qui vous ont péché les manger par le Saint-Esprit en bas du ciel et dans lequel des anges désirent plonger leur regard. Donc, les créatures qui n'ont pas péché sont aussi intéressées par le nom du salut pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ah, il reste pas beaucoup, c'est pas grave. L'exemple que je donne, vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? L'exemple que je donne, c'est que souvent quand vous parlez à des gens athées, ils vont dire, mais Dieu savait que tu savais faire ci, ça, c'est ça, et tu n'as pas. Donc, il y a deux problèmes là-dedans, c'est que vraiment, eux ne prennent pas en considération que Dieu avait créé d'autres êtres avant. Dans leur tête, Dieu est tout seul là, puis il y a Satan qui apparaît, puis Satan veut devenir méchant, pourquoi il n'a pas juste tué, puis il a arrêté ça. Mais Dieu a créé myriades d'autres créatures avant que nous sommes les benjamins de la création. Donc, quand le problème du péché est venu, Dieu devait assurer que les autres soient convaincus que Dieu est juste. Oui, mais Dieu savait si Dieu savait, oui, mais Dieu savait que les autres ne savaient pas. Donc, la raison qu'on donne, si vous étiez. De passage en Allemagne dans les années 1920, et que vous croisiez un gars qui s'appelle Adolf Hitler, qui dit toi, tu as un ami ensemble, pour nous, 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 qu'est-ce que tu vas obtenir de ton ami? Est-ce qu'on va se dire, oui, c'est vrai, tu as vraiment sauvé l'humanité? Pourquoi?
Non, on
ne sait
pas
ce
qui
est près
de lui,
quelque chose
que ça.
Exactement. Donc, toi, en fait, tu es le seul qui sait ce que ce gars va faire plus tard. Mais tu le tues là sans aucune évidence. Donc tu vois, tu trouves à l'université à parler du bien, tu dis oui, tu sais ce que tu vas faire, tu le tues tout le monde. Tu vas en prison,
c'est quoi?
Maintenant, si vous avez l'opportunité d'aller, vous êtes en 1944, et là vous êtes capable de vous infiltrer et tout dans le temps de lundi, vous arrivez, vous pouvez dire, tu fais boum boum boum. Est-ce qu'on va être en prison?
Non.
Pourquoi? Alors, on a des points de l'évidence est énorme. Vous devenez un héros. Dans le premier exemple, vous allez en prison. Dans le deuxième, vous êtes un héros. Soit différent. Donc, même si Dieu sait que Satan va faire ci, ci, ça, parce qu'il y a lui seul qui sait, il est obligé de laisser dans une certaine mesure les évidences qui se manifestent. Comme ça, quand il m'a dit, ok, maintenant le temps est venu de détruire, tout le monde m'a dit, ah, Seigneur, tu es un héros. Alors que si il l'avait fait avant, il dit, ah, bah, tu sais, boum, 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 try it here. Et après, il y a le coup de cela dans la tête, comme on est terminé. Et ici, il n'a même pas. Il a, ça aurait été vraiment quelque chose de terrible. Ça fait que Dieu, même s'il est Dieu, c'est lui seul qui fait. Donc, comme les autres ne savent pas, par contre, il faut qu'il laisse au débiteur se manifester avant d'agir.
Il reste à
faire. Oui, donc. Ah, c'est dommage, je vais mettre, vous voyez celle-là. Oui, question. Oui, question.
Maintenant, j'ai une seconde pour commencer à parler à ça. Il ne faut pas oublier qu'on pense au conflit entre bien et le mal, mais dans le calif, quand on a dit le mot guerre, la guerre en italique, c'est genre ça, le mot c'est tous ces problèmes. Donc, en gros, le mot c'est comme un argument. Comme une contre-guerre. C'est pas juste, c'est pas comme Star Wars, mais dans un film, c'est une guerre de qui est Dieu, est-ce qu'il est vraiment amour. Alors on a le Satan qui dit, oh mais Dieu n'est pas amour. Maintenant, imaginez, en contexte humain, il y a quelqu'un qui fait, ok, Obama a fait telle chose, avant qu'il en met la personne à disparu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai. Alors il ne peut pas juste jeter comme ça, puis tous les gens vont faire, merci, c'est vrai, c'est que Dieu n'est pas amour, c'est qu'il est fini, c'est ça. Alors, dans ce sens, il y a un déroulement qui va être fait pour voir, mais
ouais.
C'est ça la vérité.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est parmi les dernières, juste vous voyez ça, pour ça revient à la question de qui. Ça, c'est ce qui dit qui Dieu est, ça, c'est ce que la loi de Dieu est, et c'est les mêmes caractéristiques. Donc, Dieu et sa loi, c'est exactement la même chose. Donc, voici pourquoi elle est tout aussi sacrée, pourquoi c'est Dieu qui va passer à côté. Et de parler du péché et l'amour. Dans les deux derniers objectifs, maintenant, sauver les pécheurs, bien sûr, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui ont perdu. Donc, nous sauver, ça fait partie de notre salut, mais ce n'est pas la seule raison, il y a les autres raisons. Et maintenant, à la fin, détruire Satan et tous ceux qui s'attachent au péché, Matthieu 25, 41. Donc, ensuite, il dira à ceux qui seront à ta gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc avant que Lucifer soit détruit et que tous ceux qui le suivent le soient, il faut vraiment que l'évidence soit très claire. Le temps qui reste dans la grande controverse est très court, par rapport à notre thème aussi encore un peu de temps. L'essentiel c'est de se préparer. Jésus est en train de faire le jugement au ciel. Soyons prêts, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de menteur, n'est-ce pas? Parce que nous marchons avec Jésus. Parce qu'il reviendra nous chercher. Je finis avec cette citation à tel effet. Moi, j'adore ce passage qui montre comment est-ce que la grande controverse termine complètement. Donc, on va lire ça ensemble, puis ensuite, on va faire la prière. Donc, comment est-ce que Dieu va. La dernière scène qui comble ma soif de justice. À tel effet, pas 7 ans, 24 par 4. Donc, tous les méchants sont en dehors de la Nouvelle Jérusalem, ils essaient d'attaquer, mais en plus avant d'attaquer la Nouvelle Jérusalem sous les ordres de Satan, il y a cette scène qui se produit. Et Jésus est dans la Nouvelle Jérusalem avec tous les rachetés, et on regarde les gens qui ont une barrière dessus. Au-dessus du trône, au de Dieu, sous l'emblème de la croix, on voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, et toutes les phases successives du grand plan de la rédemption, l'âme naissance du Sauveur, son enfance et son adolescence, toute de candeur et d'obéissance, son baptême dans le Jourdain, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public, révélant aux hommes les bienfaits du ciel, ses journées remplies d'actes de bonté et de miséricorde, ses nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne, les complots, fruits de l'envie et de la haine, qui récompensaient ses bienfaits. Donc, un cinéma géant où Dieu montre l'histoire du Christ. L'angoisse et mystérieuse agonie de Gethsémané où il porta le poids écrasant des péchés du monde, les heures nocturnes au milieu d'une foule meurtrière, et les sinistres événements de cette nuit d'horreur, la désertion de ses disciples bien-aimés, la violence de la soldatesse le long des rues de Jérusalem, les clameurs de la foule, les comparutions chez Anne au palais de Caïphe, au tribunal de Pilate, et devant le lac qui courait Hérode, des sarcasmes, des injures, des flagellations, la condamnation à mort, tout cela vécu avec une réalité saisissante. Puis, sous les yeux de la justice pénitente, par les scènes finales de l'année humaine, on voit les deux martyrs couler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois d'infamie. Des prêtres hautains et une ville populaire insultent à son ennemi. Au moment où le Rédempteur expire des ténèbres surnaturelles envahissent la scène, la terre frissonne et les rochers se déchirent. Dans ce redoutable scénario, tout est d'une poignante exactitude. Satan et ses gens, ses sujets, qui reconnaissent leurs œuvres, ne peuvent en détourner les regards. Tout le monde est obligé de regarder ce qui se passe. Et chacun des acteurs de ce drame se reconnaît dans le rôle qu'il a joué. Hérode, qui massacra les innocents de Bethléem en tentant de faire mourir le roi d'Israël, l'infâme Hérodiade qui changea sa conscience du sang de Jean-Baptiste, Pilate faible et opportuniste, les soldats ricanèrent, les sacrificateurs, les chefs et la foule en dément qui criaient que son sang soit sur nous et sur nos enfants, tous voient l'énormité de leur faute. Ils tentent en vain de se dérober à la vue de celui dont l'éclat surpasse la lumière du soleil, tandis que les racetés jettent leur couronne au pied de Jésus en s'écriant qu'il est mort. Donc, voici la fin de la tragédie. Tout le monde regarde, tout le monde dit, ok, Dieu est juste. On a prié la Bible. On mérite de périr. Et ensuite, Dieu, il s'attaque à Satan, puis le feu descend sur eux. Beaucoup de gens j'entends qu'ils vont attaquer la vie, puis c'est comme ça qu'ils vont mourir. Non, non, Dieu va les convaincre de leurs erreurs. Et ils vont attaquer Satan, et pendant qu'ils sont en train de se faire la guerre entre le feu, ils vont descendre sur eux. Oui, c'est ça. C'est pour montrer la supériorité de la justice de Dieu par rapport à donc voilà l'appel que Jésus a fait ce matin. C'est le sacrement d'une vie de sanctification et que tout ça tourne à notre avantage et pour aider les autres aussi à être prêts pour le retour de Jésus. Amen. Ok, donc on va l'appel pour la bénédiction. Et dans notre cœur, notre Dieu, merci infiniment pour ton ministère dans le sanctuaire, Seigneur, et ce que tu fais pour nous. Aide-nous, Seigneur, à apprendre ces choses et à les mettre en pratique dans nos vies. Et nous, Seigneur, à ne pas être effrayés par les scènes de jugement de nos confrères, à être dans la confiance et dans la joie que tu es auprès du Père, justement, en train de plaider pour nous. Et que la seule chose qui peut nous séparer de toi, c'est nous-mêmes, Seigneur. Et aide-nous à emmener sur le droit chemin toutes les personnes que tu mettras dans notre entourage également. C'est moi, dans tout Jésus, nous avons prié. Amen.